franceinter.fr.
Bonsoir à tous. Bientôt des trains pas comme les autres à la SNCF. Le rapport Spinetta propose de tout changer ou presque. Fini le statut des cheminots, moins de TGV et plus de petites lignes peu empruntées. Les syndicats crient à la casse du ferroviaire. Recommandations et réactions dès le début du journal et au téléphone sonne à 19h20, Fabienne.
Eh bien, votre avis sur ce grand Big Bang? Oui, le gros Big Bang en vue à la SNCF. Tous les mots qui fâchent, vous l'avez dit, sont là. Statut, petites lignes, ouverture à la concurrence, tout d'ailleurs. Sauf les retraites, on en parle au 01 45 24 7000.
Sommaire également ce soir, Donald Trump bientôt en Floride. Après les 17 morts dans la fusillade d'hier, un déséquilibré pour le président américain, vous l'entendrez. Les robes noires dans la rue contre la réforme de la justice, nous sommes en France. Portrait du nouveau président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Martin Fourcade seulement cinquième en individuel au JO en Corée du Sud. 50 millions d'euros de sculptures et de masques donnés au musée du Quai Branly à Paris. Et puis le temps, le sud au soleil dépercé dans le gris au nord.
France Inter.
C'est donc un trajet en correspondance que le rapport Spinetta propose pour la SNCF avec une dizaine de changements majeurs parmi les 43 propositions de l'ancien PDG d'Air France. Bonsoir Manuel Ruffez.
Bonsoir.
120 pages pour l'avenir du transport ferroviaire, c'est son titre. Le texte préconise de ne plus embaucher sous le statut de cheminot.
Et voilà le sujet sans doute le plus explosif. Effectivement, plus de statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. Jean-Cyril Spinetta souligne d'ailleurs que c'est déjà le cas pour 10% des effectifs de la SNCF, déjà hors statut. 10%, c'est à peu près 15 000 salariés sur 145 000. Alors pourquoi ce changement? Eh bien très prosaïquement, parce qu'avec l'ouverture du réseau à la concurrence, eh bien ce statut, explique Jean-Cyril Spinetta, plombe la compétitivité de la SNCF et pourrait avoir pour conséquence de lui faire perdre des parts de marché. Pour désamorcer un peu ce sujet épineux, les anciens garderaient bel et bien leur statut avec tous leurs droits acquis.
Si la SNCF vous a fait préférer le train, vous vous souvenez de ce slogan, cette proposition va vous intéresser. Le rapport se demande s'il faut maintenir les lignes peu empruntées et continuer l'expansion du TGV.
Et Jean-Cyril Spinetta fait le constat suivant, c'est tout de même absurde, dit-il, qu'on manque d'investissement sur les lignes les plus fréquentées, où la demande est la plus forte, alors que de l'argent est bel et bien dépensé sur des lignes très peu fréquentées. Alors voilà, il préconise de concentrer les investissements là où la demande de transport est la plus forte, et donc de s'interroger sur l'avenir des lignes les moins fréquentées, mais certainement pas de réduire les investissements, au contraire de les amplifier pour mettre, dit-il, ce réseau à la hauteur des attentes légitimes des clients.
Tout cela pour un objectif, Manuel, dans un contexte concurrentiel, redresser les comptes de la SNCF.
Eh ben, c'est bien le but. Jean-Cyril Spinetta avance des chiffres très parlants. Chaque année, la dette de la SNCF s'accroît de 3 milliards d'euros. Chaque année, ce sont 10 milliards et demi d'euros d'argent public qui financent la SNCF. Des chiffres considérables. Il faut rechercher la rentabilité, la compétitivité. C'est vraiment un changement de philosophie pour les SNCF.
Transformation assez radicale donc, merci Emmanuel Ruffez. Que propose ce rapport? Il signe l'arrêt de mort de la SNCF telle qu'on la connaît, disent les syndicats qui promettent déjà une grève dure. Voyons l'accueil chez les cheminots et les usagers marseillais avec ce reportage de Marie-Christine Loriol.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le président de la région ne cache pas sa satisfaction. Renaud Muselier, comme Christian Estrosi avant lui, ne cessait depuis plusieurs mois de dénoncer un système ferroviaire à bout de souffle. Il demande aujourd'hui au gouvernement de reprendre les propositions du rapport et notamment d'ouvrir le rail à la concurrence. Pour les usagers, c'est un autre son de cloche. Gilles Marcel est le président de l'association NoTER PACA.
On est plutôt sur un recul vis-à-vis des attentes des usagers. Les usagers, ce qui les intéresse, c'est pas de savoir s'il y a une concurrence ou pas de concurrence ou un système différent. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des services qui soient en continu, qui soient dans une cohérence avec d'autres modes. Et de ce point de vue-là, on n'est pas parti dans cette direction.
Même sentiment du côté des syndicats qui ne voient pas comment la concurrence va améliorer le trafic. Mais c'est la disparition du statut de cheminot qui les fait bondir. Fabrice Lacombe, délégué Sudrail.
On rappelle quand même que le statut, il n'est pas là pour rien. Je veux dire, les cheminots travaillent les samedis, les dimanches, les nuits, donc ça garantit quand même des règles sociales derrière. Enfin, ça fait un peu porter la responsabilité aux cheminots des mauvaises conditions de circulation ou de la mauvaise exploitation lors du chemin de fer. C'est un peu un chantage malsain qu'on nous fait.
Des syndicats qui ont d'ores et déjà fait savoir que ce rapport signait la fin du ferroviaire, mais surtout pouvait mettre le feu dans l'entreprise. Marseille, Marie-Christine Loriol, France Inter.
Le rapport Spinetta servira de base de travail pour le secteur ferroviaire à la future loi des mobilités qui est prévue en avril. Les consultations commencent dès la semaine prochaine, selon Matignon. On verra ce qu'en dit le patron de la CGT, Philippe Martinez, qui est demain à 8h20 sur Inter. Et vous y revenez au téléphone sonne, donc Fabienne, à 19h20.
Et d'ailleurs, Jean-Cyril Spinetta sera l'invité de France Inter aussi à 7h50 demain.
Absolument.
Voilà, comme ça c'est complet. Les drapeaux sont en berne aux États-Unis.
Sur les bâtiments publics et les ambassades à l'étranger, à la demande du président américain après la fusillade dans un lycée, 17 personnes tuées au fusil d'assaut par un jeune de 19 ans, exclu de l'établissement pour discipline. Un déséquilibré mental, selon Donald Trump dans un tweet ce matin. Il a pris la parole tout à l'heure depuis la Maison-Blanche. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
Mais Grégory, pas un mot sur les armes à feu dans cette déclaration.
Non, une adresse solennelle à la nation de 6 minutes, diffusée en direct évidemment sur les chaînes d'information, mais pas un mot sur le gun control, vous savez, le contrôle des armes aux États-Unis. Une promesse en revanche, renforcer encore un peu plus la sécurité dans les écoles.
Aucun enfant, aucun enseignant ne devrait se sentir en danger dans une école américaine. Aucun parent ne devrait avoir peur pour ses fils ou ses filles au moment de leur dire au revoir le matin. Notre administration travaille avec les gouverneurs des différents États et les acteurs locaux pour renforcer la sécurité dans nos écoles et s'attaquer aux problèmes délicats de la santé mentale.
Et dès ce matin, Donald Trump avait présenté le tireur de Parkland comme un déséquilibré, vous l'avez dit, un peu comme après la tuerie de Las Vegas en octobre. C'est un problème de santé mentale, pas un problème d'arme à feu. D'ailleurs, à la fin de cette allocution, un journaliste lance au président « Pourquoi ça arrive ici aux États-Unis? Qu'allez-vous faire contre les armes ?» Et Donald Trump ne répond pas, tourne les talons et retourne dans son bureau.
En quelques mots, Grégory, on en sait un peu plus sur le tireur ?
Et notamment sur le fait qu'il avait prémédité son geste. Le site internet BuzzFeed affirme notamment que le FBI avait été prévenu au mois de septembre par un internaute qui, sur une plateforme vidéo, avait repéré le commentaire d'un certain Nicolas Cruz, du nom du suspect, affirmant que bientôt ce serait à son tour d'aller tirer dans les écoles. Les enquêteurs vont devoir établir s'il y a bien eu des signaux, des alertes, et si les autorités auraient pu tenter de prévenir le passage à l'acte de ce jeune homme de 19 ans.
Grégory Phillips en direct de Washington, merci. Le tireur est inculpé pour 17 meurtres avec préméditation. Il avait le même fusil d'assaut que celui utilisé notamment dans l'hôtel de Las Vegas en octobre et dans la boîte de nuit d'Orlando. C'était en juin 2016.
Il est 19h07. Les restes, quel mot terrible, de Maëlys sont presque tous été retrouvés.
Oui, à l'endroit indiqué hier par Nordal Lelandais, qui avoue qu'il a tué la fillette involontairement sur la commune de Saint-Franc en Savoie. Les enquêteurs attendent qu'il en dise plus sur les circonstances de sa mort. Il sera de nouveau entendu dans les prochains jours. Et en attendant, Mathilde Lemaire, les recherches sont terminé donc pour aujourd'hui.
Malgré le brouillard, la pluie froide qui tombe et la neige au sol, malgré le relief de cette zone boisée, les gendarmes spécialisés ont avancé très vite. Ce soir, la quasi-totalité du squelette de la fillette a été retrouvée à l'endroit où de premiers ossements avaient été découverts sur indication de Nordal Lelandais hier soir. Cela signifie qu'il n'y a pas eu de dispersion du corps. Les vêtements et une chaussure de l'enfant font aussi partie des prélèvements rassemblés dans le laboratoire mobile sur place. L'analyse de la scène de crime va se poursuivre sans doute plusieurs jours, mais l'opération de levage du corps, pour reprendre les mots des enquêteurs, c'est opération-là est quasi terminée. Avant que les parents de Maëlys puissent inhumer la petite fille, la dépouille va être maintenant longuement expertisée par des médecins légistes. C'est capital pour comprendre les causes et circonstances du décès. Nordal Lelandais n'a rien dit sur cela pour le moment, à part qu'il l'a tué involontairement. Je reprends ses mots. L'ex-militaire de 34 ans veut prendre le temps avant de livrer ses explications sur ce point. Il sera donc réentendu par les juges un peu plus tard. On ignore quand exactement.
Mathilde Lemaire et Laurent Groux dans le massif de la Chartreuse. Un rassemblement pour la fillette aura lieu samedi après-midi à Chambéry. Eux dénoncent une logique gestionnaire de la justice. Les magistrats, greffiers et avocats dans la rue aujourd'hui partout en France, comme à Dijon ou à Saint-Quentin dans l'Aisne, contre le projet de réforme de la garde des Sceaux prévu au printemps. Rassemblement notamment ce matin devant le tribunal de Bobigny, le deuxième de France. Et un peu plus tard, bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Sur les marches du palais de justice de Paris.
Hier, aujourd'hui et demain, la justice est sous l'eau.
Rassemblement pluvieux et slogan de circonstance à Paris pour dénoncer le manque de moyens de la justice française, la 23e en Europe par son budget. Les syndicats dénoncent aussi une concertation de façade sur les chantiers de la justice. Brigitte Bruno-Bercher est secrétaire générale adjointe de l'UNSA, service judiciaire.
C'est un petit peu le système de M. Macron, hein. On sent que tout est bouclé déjà. On nous parle de numérisation, bien sûr que nous sommes favorables à cela, évidemment. Mais avec quels moyens? Ici même, sur ce palais de justice, nous avons, excusez l'expression, mais des plantages réguliers en matière informatique. Nous n'avons pas la fibre, il y a un profond ras-le-bol, les heures supplémentaires sont exponentielles, nos collègues n'en peuvent plus.
Dans les plus petits tribunaux, c'est la future carte judiciaire qui inquiète. Les cours d'appel seraient amenées à se spécialiser. Les tribunaux d'instance de proximité seraient à terme menacés, selon Laurence Blisson, secrétaire générale du syndicat de la magistrature.
Derrière l'organisation de la justice, c'est le fait de savoir comment est-ce qu'un citoyen, lorsqu'il veut saisir un juge, lorsqu'il est contraint de saisir un juge, combien de kilomètres est-ce qu'il va devoir faire ? Est-ce qu'il va devoir payer obligatoirement un avocat ? On n'est pas contre des réformes pour la justice, mais on veut qu'elles soient faites dans l'intérêt des citoyens et pas dans une logique gestionnaire.
Officiellement, la réforme n'est pas encore arrêtée. Elle doit être présentée au Conseil d'État début mars.
La justice qui ordonne une expertise médicale de Tariq Ramadan avant de statuer sur sa remise en liberté. L'islamologue suisse est mis en examen pour viol. Il conteste son placement en détention provisoire depuis 2 semaines. Son recours sera examiné jeudi prochain et il reste donc en prison d'ici là. 5 ans de prison requis contre le cerveau du casse du siècle, Jacques Cassandry, jugé pour le blanchiment du butin du braquage de la Société Générale de Nice en 1976. 46 millions de francs à l'époque.
Merci aux décisions prises sous François Hollande.
Commentaire signé de l'ancien porte-parole du gouvernement et hollandais fidèle Stéphane Le Foll, qui se félicite que le chômage passe sous la barre des 9%, 8,6% en métropole, 8,9% avec l'outre-mer, selon les chiffres de l'INSEE pour le 4e trimestre 2017. Gérald Darmanin dénonce une nouvelle calomnie et assure qu'il n'a rien à se reprocher. Le ministre des Comptes publics est visé par une plainte pour abus de faiblesse. Une femme l'accuse du temps où il était maire de Tours. Pourquoi ? Mais sur place, Camille Labrousse, élus et habitants sont prudents.
Les élus d'opposition auraient pu s'engouffrer dans la brèche et appeler à la démission de Gérald Darmanin de son poste de ministre et de premier adjoint. Mais Jean-François Bloch, ex-Front National, préfère se montrer patient.
À ce moment-là, n'importe qui peut accuser un ministre et il sera obligé de démissionner. Vous voyez un peu le ridicule d'une telle position.
Jean-François Bloch le concède tout de même à demi-mot. Une accusation, puis une deuxième. Cela l'a un peu troublé.
Personnellement, quand même, ça m'a ébranlé parce que les accusations sont graves. On attend, mais on est quand même inquiet de cette situation inédite.
Du côté des habitants sur le marché de Tourcoing, pas question de céder à l'emballement pour Monique.
Sinon, c'est trop facile. Demain, on vous dit que vous avez violé et vous devez partir de votre boulot alors que c'est pas vrai, donc c'est pas juste. Partira que le jour où on prouvera.
Le discours de Monique est largement partagé par les habitants. Ce qui revient aussi beaucoup, c'est l'agacement face à l'accumulation des affaires dans le milieu politique.
Encore un, moi, et puis voilà, c'est tout. Je trouve qu'en ce moment, il n'y a que des dossiers très désagréables et qui sortent sans arrêt. Je suis un peu agacée par tout ça. Ça commence à m'énerver sérieusement.
En cas de mise en examen, Gérald Darmanin devra démissionner. C'est la ligne rouge que s'est imposé le gouvernement.
Camille Labrousse de France Bleu Nord. Et si Marine Le Pen n'était pas la candidate du Front National à la présidentielle de 2022, la patronne du FN ne l'exclut pas. Si un autre candidat est mieux placé qu'elle pour diriger le parti, l'élection a lieu dans un mois au congrès de Lille. Sur le nom du parti que Marine Le Pen veut changer, le mot Front a une connotation un peu militaire, reconnaît-elle. Le Parlement adopte la réforme de l'accès à l'université, 49 voix contre 13 à l'Assemblée ce matin, 250 contre 93 ce soir au Sénat. Le texte supprime le tirage au sort et il entérine la mise en place de la nouvelle plateforme Parcoursup. Barrage levé, mais les agriculteurs toujours mobilisés contre le projet de nouvelle carte des zones défavorisées. Accès bloqué depuis 2 jours à Niort, dans les Deux-Sèvres, où 1 millier d'éleveurs seraient concernés. Une avalanche fait 3 morts dans les Pyrénées, 3 skieurs de 29 et 38 ans. Ils évoluaient en hors-piste sur la station de Cotteray.
Il n'y avait pas d'autres candidats, il n'y a donc pas eu de vote.
Cyril Ramaphosa est le nouveau président de l'Afrique du Sud, le chef du parti au pouvoir. L'ANC remplace Jacob Zuma, poussé à la démission par les polémiques et les scandales de corruption. Son successeur a 65 ans, 10 ans de moins que Zuma. C'est un ancien syndicaliste devenu homme d'affaires. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
Et parmi ses priorités, la lutte contre la corruption.
Oui, Cyril Ramaphosa a promis une nouvelle ère, une rupture avec son prédécesseur Jacob Zuma. Je travaillerai très dur pour ne pas décevoir le peuple sud-africain, a-t-il martelé devant le Parlement, lassé par les scandales de corruption à répétition. Le pays attend des actes concrets du nouveau président qui doit présenter des propositions dès demain soir à l'occasion de son premier discours sur l'état de la nation. Alors Cyril Ramaphosa appartient à la vieille garde de l'ANC, le parti au pouvoir. Il est présenté comme un homme de compromis. Il prône une forme de retour aux valeurs de probité dans la vie publique. En ce sens, il se place dans la lignée de Nelson Mandela, dont il fut un compagnon de route. Cyril Ramaphosa est aussi attendu sur la situation économique et sociale, très préoccupante, avec un taux de chômage qui avoisine les 30% et des inégalités extrêmement importantes. Enfin, l'un de ses grands défis sera de combler le fossé qui s'est creusé entre communautés noires et blanches depuis l'arrivée au pouvoir de Jacob Zuma en 2009.
Desmond Tutu renonce à son rôle d'ambassadeur de l'ONG Oxfam, prise dans un scandale sexuel. L'ancien archevêque sud-africain et prix Nobel de la paix se dit profondément déçu par les accusations d'immoralité et de possibles comportements criminels. Plusieurs employés de l'organisation britannique sont mis en cause au Soudan du Sud, au Libéria, en Haïti et au Tchad. Mesure radicale et difficilement applicable, le Premier ministre australien interdit les relations sexuelles entre ministres et collaborateurs. Conséquence du tollé provoqué par la liaison entre son adjoint, marié depuis 24 ans, et son ancienne assistante, désormais enceinte de lui.
Martin Fourcade a encore trois courses, Sébastien, pour dépasser Jean-Claude Killy.
Et être l'unique Français le plus titré aux Jeux Olympiques d'hiver, il termine sans médaille en individuel, épreuve remportée par le Norvégien Johannes Bø. Fourcade cinquième à cause de ses deux dernières balles manquées au tir. Et qui s'en veut au micro de Fabrice Rigobert.
C'est pas de la déception, c'est de la colère. C'est de la tristesse au vu de ma prestation, mais c'est pas de la déception. Il y avait tout pour faire aujourd'hui. J'étais pas très bon. Nul. Rien ni personne à blâmer. C'était une course très difficile physiquement pour moi. J'en ai bavé, je me suis accroché. Je me suis battu jusqu'à ces deux dernières balles que je laisse totalement passer. Donc c'est de la colère parce qu'il y avait tout pour bien faire. C'est une course qui était encore une fois comme au sprint. Vraiment à ma portée, et voilà, ça fait deux titres olympiques que je laisse passer, ça fait beaucoup. J'ai laissé beaucoup d'énergie, j'étais malade pendant ces deux derniers jours. Après, c'est pas une excuse sur le dernier tir. J'aurais dû être capable d'aller chercher encore plus profond pour faire tomber ces deux palettes. Après, voilà, c'est le sport, c'est ce qui fait qu'il y a des bons moments, c'est que des fois, on laisse passer sa chance.
Il y a encore trois épreuves en biathlon au JO de Pyeongchang, la Mastart dimanche et les deux relais la semaine prochaine. En snowboard cross, médaille d'or en revanche pour Pierre Voltier, le Français de 30 ans était le grand favori. Il était déjà champion olympique à Sochi en 2014. On termine avec un gros cadeau de Noël avant l'heure au musée du Quai Branly à Paris. L'homme d'affaires Marc Ladret de La Charrière offre sa collection au musée des arts premiers. Et quelle collection ! 36 œuvres d'Afrique et d'Océanie, des sculptures et des masques du 19e siècle pour un total estimé à 52 millions d'euros. Sébastien Sabiron, c'est la plus importante donation d'art africain à la France depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Une pileuse de mille Dogon, un porte-flèche congolais, une maternité Senoufo, il aura fallu une dizaine d'années à Marc Ladret de La Charrière pour constituer cette collection. Un intérêt pour les arts premiers naît de son amitié avec Jacques Chirac. Aujourd'hui, l'homme d'affaires se sépare de sa collection sans aucun regret.
Le rôle d'un chef d'entreprise qui réussit consiste à remercier son pays des bienfaits qu'il a donnés. Ces œuvres, au départ, étaient destinées à la collectivité. Ensuite, elles ont été acquises par des collectionneurs privés, comme Elena Rubinstein, comme Rockefeller. Et c'est un circuit tout à fait naturel qu'in fine, je les redonne à la collectivité, ce qui était au départ leur destination première.
29e fortune française selon le magazine Challenge, l'homme d'affaires ne déduira pas cette donation de ses impôts, ce serait indécent, dit-il, au vu de mon patrimoine. Son geste permet aussi d'éviter que les œuvres s'éparpillent à nouveau sur le marché de l'art, d'autant que le musée du Quai Branly n'aurait pas eu les moyens de les acheter. Son président Stéphane Martin.
Globalement, nous disposons d'un budget de l'ordre d'1 million à 1 200 000 euros par an. Donc ça veut dire que pratiquement aucune de ces œuvres n'aurait pu être acquise directement par le musée. Et donc voir arriver des pièces dont certaines ont été achetées sur le marché autour de 8 millions d'euros, c'est-à-dire effectivement 8 ans de crédit d'acquisition pour le musée, c'est absolument inespéré.
Pendant 5 ans, Marc Ladret de La Charrière financera aussi un programme de recherche artistique et ethnologique au Quai Branly. Il prévoit également de faire don d'autres œuvres au musée dans les années à venir.
Et cette collection Marc Ladret de La Charrière sera visible au Quai Branly à partir d'octobre 2019.
Sébastien Paour, merci beaucoup. À demain, portez-vous bien.